Europe Matin Weekend. Pierre de Villeneuve.
Et avec nous en studio, la présidente de l'IFRAP. Bonjour Agnès Verdier-Molinier.
Bonjour Pierre.
Merci d'être avec nous. Vous publiez « La France peut-elle tenir encore longtemps ?» C'est sorti hier chez Albin Michel. C'est votre 7e ouvrage, si je compte bien.
Exact.
Et vous nous avez habitués à ces essais critiques sur la politique économique du gouvernement, des gouvernements, sous les présidences de François Hollande et maintenant d'Emmanuel Macron. Votre constat est sans appel, chiffre à la clé. Ceux qui auraient des doutes peuvent consulter d'ailleurs des annexes à la fin du livre. Notre dette explose, vous l'avez chiffré à 7000 milliards d'euros. Notre dépendance à la BCE aussi. Vous craignez clairement un scénario argentin, autrement dit la faillite, avec sans doute plus d'impôts et surtout pour les plus riches, peut-être même une ponction sur l'argent qui dort, les assurances-vie, les comptes courants, parce que les caisses sont vides. Ce à quoi le ministre Bruno Le Maire vous répond ce matin dans le Figaro Magazine. Il dit « Je suis d'accord, c'est beaucoup d'argent, mais il sera remboursé, laissant avant tout passer la crise du Covid. » Qu'est-ce que vous lui répondez à nouveau ?
Ce que je lui réponds, c'est que évidemment, Bercy ne peut pas dire autre chose que dire « on va rembourser la dette ».
Mais il ne va pas la rembourser.
Si Bercy disait, on ne va pas rembourser la dette, il y aurait un sacré problème parce qu'on va avoir besoin de plus de 260 milliards d'euros cette année 2021. Et encore, je vous donne un chiffre qui était calculé quand on pensait qu'on aurait 6% de croissance cette année. Alors, évidemment que la dette, elle n'est pas annulable. Ce n'est pas possible.
7 000 milliards.
Alors, 7 000 milliards, c'est en comptant la dette hors bilan.
En comptant tout. Ouais.
En comptant les engagements pour les pensions.
Ouais.
En comptant les investissements de type BPI, etc. etc. Bon. Mais la réalité, c'est qu'on va avoir tout un débat dans les prochains mois sur est-ce qu'on peut effacer la dette ou pas. J'explique dans le livre que ce n'est pas possible. Et qu'en revanche, il faut mettre sur la table, très rapidement, un plan qui disent comment on va gérer ce problème de la dette dans les prochaines années, d'ici 2027-2030. Pourquoi ?
Alors,
parce que ça va devenir un sujet essentiel.
On va y venir au plan et aux solutions que vous proposez. Mais d'abord, restons sur Bruno Le Maire. Il vous répond aussi qu'il n'est pas question de créer des impôts supplémentaires, des impôts nouveaux. Qu'est-ce qui vous permet de dire, parce que je l'ai lu aussi dans votre livre, que le gouvernement n'a pas du tout baissé les impôts de 44 milliards d'euros ? Ça veut dire que Bruno Le Maire ment en disant qu'il a baissé 44 milliards d'euros ?
Les gouvernements aiment bien faire des additions, on le sait. Donc, ils nous disent on a baissé de 44 milliards d'euros, mais quand on regarde l'évolution des prélèvements obligatoires, on avait 1036 milliards en 2017 et on arrive à 1054 milliards en 2021 sur les prévisions, même après la crise.
D'accord.
Donc, c'est pas sûr qu'on les ait, ces 1054 milliards. Mais la réalité, c'est que chaque fois qu'on crée un impôt nouveau, on ne le compte pas. On compte souvent que les baisses. Et quand vous changez, par exemple, la base de calcul de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière, vous ne vous dites pas « on a augmenté les impôts ». Mais néanmoins, les Français payent plus cher. Quand vous faites le prélèvement à la source, vous taxez sur un niveau de revenu qui est supérieur à ce que vous auriez taxé précédemment. Et ça, on l'a vu dans les prévisions d'augmentation de recettes. Oui, absolument. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la réalité, c'est qu'on reste... Et ça, c'est absolument aussi indiscutable, comme les chiffres que je donne dans le livre. On reste absolument le pays qui taxe le plus au monde. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train d'être le pays qui emprunte le plus dans la zone euro, mais en plus, on est celui qui taxe le plus et celui qui dépense le plus. À un moment, il va falloir qu'on atterrisse sur ce sujet. Il n'y a pas d'argent magique.
Alors, on dépense beaucoup parce qu'il y a la crise sanitaire. Et d'ailleurs, petit aparté, vous citez page 76, le chômage partiel en rappelant que le salarié privé touche 84% de son salaire, contrairement au fonctionnaire qui touche 100%. Qu'est-ce que vous critiquez ? Le fonctionnaire qui touche 100% ou la mesure totale du chômage partiel ? Parce que vous mettez trois petits points pour garder ses enfants, c'est quoi ? C'est de l'ironie ?
Mais là, en réalité, sur le chômage partiel, on ne nous dit pas tout. On nous cache beaucoup de choses sur cette crise, c'est ce que je dis dans ce livre. Est-ce qu'on nous a dit le coût pour arrêter les administrations, pour permettre aux agents, finalement, d'être en autorisation d'absence. Non. On nous dit toujours quel est le coût du chômage partiel pour le secteur privé, à peu près une trentaine de milliards. On ne nous dit jamais quel est le coût pour le public. Ce n'est pas normal. J'explique dans mon livre qu'en mars-avril, on avait 40-50% des agents dans certaines administrations qui étaient chez eux, qui n'étaient pas en télétravail. Alors que beaucoup de pays européens ont réussi à faire tourner toutes leurs administrations, y compris par exemple la justice, pendant le confinement de mars-avril. Donc là, il y a un vrai sujet. Quel est le coût total du chômage partiel plus chômage secteur public pendant cette période ? On ne l'a pas.
C'est la question que vous posez. Alors justement, vous dites, et c'est intéressant, parce que pour tous ces calculs, et pour prendre des décisions, pour réaliser les emprunts, il y a une cellule à Bercy, France Trésor, une soixantaine de fonctionnaires, dites-vous, qui pourraient travailler derrière dans une salle de marché. Ils ont leur langage à eux. Ils empruntent de l'argent pour l'instant pas cher, mais ils savent que ça ne va pas durer. Ils sont lucides là-dessus.
Je crois que ce qui m'a le plus frappé dans cette recherche pour ce livre et ce qui a déclenché l'envie d'écrire ce livre, c'est le fait que beaucoup de hauts fonctionnaires viennent me voir. Et notamment certains qui sont en première ligne et qui me disent « ça ne peut pas durer comme ça
». Ils ont peur.
La France va
ils
pas
sont inquiets.
Et c'est le titre du livre, la France ne va pas tenir le coup si on continue comme ça. Ils sont inquiets parce qu'on est rentré dans ce quoi qu'il en coûte, la fleur au fusil, finalement en mettant des euros qu'on n'a pas sur la table et sans vraiment regarder où ils vont. C'est valable pour le plan d'urgence et c'est valable pour le plan de relance. On a fait beaucoup plus de chômage partiel que l'Allemagne. Eux, ils font beaucoup plus pour baisser les impôts des entreprises, ils font beaucoup plus pour recapitaliser leurs TPE et PME. Nous, on a un plan de relance qui passe toujours par les ministères. J'explique dans le livre à un moment... On appelle un ministre en disant « on a 2 milliards dans le plan de relance pour toi, tu as 2 heures pour décider comment tu le dépenses ».
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le chiffrage parlementaire, vous proposez justement qu'on recompte au niveau du Parlement ce qu'on compte au niveau de l'État. C'est quand même surréaliste.
Oui, ce que je propose, c'est qu'on nous donne vraiment un plan stratégique pour réatterrir derrière. C'est-à-dire
réduire le train de vie de l'État, baisser les impôts, ceux des entreprises, reculer l'âge du départ à la retraite. C'est un peu toujours les mêmes recettes. Mais quoi, qui ne sont toujours pas appliquées ? C'est ce que vous demandez ?
Pourquoi est-ce qu'on emprunte à taux bas aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on peut dépenser sans compter ? Parce que l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays du nord de l'Europe ont fait le travail. Ils ont demandé à leur population de travailler plus longtemps. Ils ont réduit les coûts des dépenses d'administration. Ils ont baissé les impôts sur la production dans les entreprises, sur le capital, pour garder les entreprises sur notre sol. On est en train de se dire comment on va faire pour produire en France. Mais si demain on veut produire en France, la dette ne doit pas être un boulet. Et cette dette, telle qu'elle est aujourd'hui, elle peut nous exploser à la figure, à la fois en impôts supplémentaires, en chômage supplémentaire, mais aussi en déclassement de la France. Et c'est pour ça qu'avec ce livre, je vais me battre pour qu'on prenne le sujet en main et qu'on ne mette pas ça sous le tapis. Parce que, Pierre, la réalité, c'est que d'ici 2022, c'est dans quelques mois, on peut beaucoup avancer sur ce sujet, comme on peut ne rien faire. Et quand Bruno Le Maire dit... Oui. On est en train de faire une commission sur le sujet. La commission, ça ne suffit pas. Il va falloir des actes, il va falloir des engagements.
Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. La France peut-elle encore tenir longtemps ? Voilà votre dernier essai et livre chez Albin Michel.